Julia Kristeva est l'invitée de la Compagnie des auteurs aujourd'hui. Nous terminons avec elle une série d'émissions consacrée à Colette.
L'amour, c'est son nom, l'amour, mais l'amour, c'est l'amour.
Bon, alors en ce qui concerne la vie homosexuelle, enfin les relations homosexuelles de Colette, elles existent, il y a des lettres, il y a cette tendresse qu'elle manifestait vis-à-vis des femmes. Je crois qu'elle aimait les femmes parce que elle a eu peur de Willy, elle le dit à un certain moment. Willy lui a révélé non seulement qu'elle était un écrivain, mais elle lui a révélé le plaisir. Et je crois que quand elle a rencontré le plaisir dans les bras de Willy, ça a été pour elle un choc immense sur lequel elle va vivre pendant un certain nombre d'années, ce qui va lui permettre d'accepter tout ce qu'elle va accepter de Willy, y compris des femmes, y compris des ménages à trois. On l'a vu, elle l'a écrit, dans mes apprentissages, elle va avoir des accents de révolte, de colère envers Willy, puis tout d'un coup, elle avouera que c'est l'homme qu'elle a aimé, que c'est l'homme qu'elle aime, finalement. Mais je pense que Colette va y prendre une certaine... un sentiment de sécurité dans les amours féminines. Puis peut-être un sentiment de sa puissance. Car dans ses amours féminines, je pense que Michel Sartre sera de mon avis, elle a une attitude de mec, nous dirions maintenant. La manière dont elle parle de René Vivien est une manière brutale. D'abord, elle n'éprouve aucune sympathie pour René Vivien. Elle la regarde avec une espèce de méfiance. Et son comportement est celui d'une conquérante.
C'est l'amour, c'est son nom, l'amour, mais l'amour, c'est l'amour.
Régine Deforge, de nouveau au micro du Bergeuin en 1978. Vous êtes d'accord, Julia Kristeva, avec cette idée, finalement, que l'amour des femmes pour Colette serait venu de la peur de ce plaisir que lui a fait découvrir Willy?
Écoutez, moi j'ai une vision de Colette qui est peut-être moins misérabiliste. Je pense que quelqu'un, c'est quelqu'un qui a réussi à traverser sa douleur et sa peur. Je reprends ce que je disais tout à l'heure en donnant cette piste qu'elle a choisie, qui est celle de la nature, les bêtes, les plantes et le langage. Mais elle a trouvé une autre aussi, et les deux sont parallèles, qui est d'aller cueillir le plaisir.
Et où qu'il se trouve, du côté des hommes.
Pas d'interdit. Alors, je me voyage, reprenant le titre de mon dernier livre, elle se voyage à travers les plaisirs. Tu me laisses tomber, tu as des maîtresses, moi aussi. Et les mêmes. Et qu'est-ce qui la prédispose à cela? Parce qu'elle ne se force pas. Il y a ce moment de la dépression dont on a parlé, elle était aidée par les uns et les autres, sa mère est arrivée, donc elle était épaulée.
Pour vous, c'est vraiment fondateur, la dépression avec cette idée de la jouissance féminine, c'est lié pour vous.
C'est fondateur, la dépression lui a fait toucher le fond, et dans ce fond, elle a trouvé ses ressources. Et ces ressources sont aussi ces capacités infinies à se dépersonnaliser dans la jouissance. Et elle s'est dit, voilà, je suis capable, je suis le rossignol, je ne vais pas m'empoisonner avec la vigne, je vais chanter à cette vigne mon chant à moi. Et elle va trouver dans son plaisir, dans ses orgasmes, une mélodie, un style, une manière de s'imposer aux amants, aux amantes et au monde. Donc c'est cette, et dans ce triomphe de la sensualité, elle découvre la place du féminin auto-érotique, du féminin maternel, du maternel masculin, de sa complexité sexuelle. Elle s'appelle hermaphrodite mentale elle-même. Mmh. Elle est extrêmement garçonne.
Elle pense d'ailleurs que les femmes sont fondamentalement bisexuelles.
Alors, je ne sais pas si elle le pense si clairement, mais là, j'ai trouvé ça chez Freud et c'est extrêmement intéressant. Elle devance la psychanalyse par beaucoup de chemins, notamment celui-ci. Freud va écrire, mais dans les années 30, que la bisexualité psychique est plus avancée chez les femmes, plus accentuée chez les femmes que chez les hommes. Elle découvre ça, même dans les Claudines, elle se regarde dans le miroir et elle trouve qu'elle est garçonne. Et après, elle va aller rencontrer les maîtresses de Willy, mais avec sans doute un esprit de vengeance dont elle parle, et colère bien sûr, mais non sans plaisir. Et elle a écrit un livre magnifique qui est pour moi son meilleur livre, qui devait s'appeler « Ces plaisirs qu'on nomme à la légère physique oui. » et qui est le livre devenu « Le pur et l'impur ». Et vous avez là une panoplie de personnages homosexuels, hommes et femmes, qui est extraordinaire, où elle montre les différentes facettes d'homosexualité. Elle se moque beaucoup de certaines homosexuelles femmes, elles appellent des rats écoutés. Savent pas, peuvent pas faire pipi debout, enfin toutes sortes de choses extrêmement cruelles et vengeresses, mais en même temps, elle est notamment par rapport à Missy, qui était sa grande amie qu'elle a laissé tomber,
oui, qu'elle a trahi quand même,
qu'elle a trahi, qu'elle n'a pas l'a pas aidée pendant qu'elle était malade vers la fin de sa vie, elle l'a pas visitée, etc. Mais en même temps, elle a mis comme un point d'honneur de cueillir la jouissance de la vie, et elle a trouvé dans cette traversée un grand épanouissement dans ses amours lesbiennes, mais aussi une manière de chanter la tendresse. Le couple le plus insolite dans Le pur et l'impur, c'est les dames de l'Angolaine, qui sont deux homosexuelles anglaises et qui vivent une sorte d'amour mère-fille, qui est une sorte d'idylle de tendresse et d'admiration de la part de Colette. Et elle écrit cela pour répondre, Le pur et l'impur, pour répondre à Sodome et Gomorre de Proust. Oui. Elle avoue dans une lettre à Jouvenel qu'elle lit Sodome et Gomorre et le cache sous le matelas, parce que Jouvenel ne veut pas tellement qu'elle se distrait avec ça, mais elle pense que Proust n'a pas tout dit sur l'homosexualité féminine, et elle va lui montrer ce qu'elle va lui montrer, elle va écrire Le pur et l'impur. Et donc, elle va beaucoup plus loin dans deux facettes de l'homosexualité féminine, la dépressivité qui la tendrit, qui la choque, qui la conduit à des douleurs et à des colères, et en même temps une grande capacité de plaisir et de don à soi.
Et est-ce qu'elle comprend également, selon vous, Julia Kristeva, la sexualité masculine, la jouissance masculine? Est-ce que les personnages de Colette sont pour vous aussi finement compris quand ce sont des hommes?
Je pense que c'est quelque chose qu'elle décrit avec beaucoup plus de rigueur et de sévérité. Ils deviennent souvent des caricatures d'hommes qui abusent, et je pense
comme ses maris, alors
notamment Willy Jouvenel aussi, d'une certaine façon elle se moque facilement de ce côté obsessionnel, méticuleux de l'homme qui réussit, ou des faiblesses de celui qui s'adonne des jouissances avec des tendrons ou avec des femmes qu'il sous-estime, etc. Et donc, c'est un des premiers jets violents, donc féministes de cette façon, contre une sexualité féodale, on va dire, du côté de l'homme. Vous me posez la question, est-ce que c'est la sexualité de l'homme qu'elle a vue mieux que celui de la femme et celle de la femme, etc. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire du côté de la sexualité de l'homme. Ce n'est pas dire qu'aujourd'hui on va plus loin, parce que ça reste la grande énigme. J'ai pensé, c'est la psychanalyste qui parle maintenant, j'étais très impressionnée par le fait que les premières Claudine sont contemporaines de l'interprétation des rêves de Freud. Et là où Freud met sur le divan des femmes mélancoliques ou frustrées, Colette va mettre en évidence des femmes qui traversent ces situations-là et qui jouissent de leur corps et qui peuvent affronter les hommes, etc. Et de ce point de vue, on a beaucoup fait concernant la jouissance féminine depuis Simone de Beauvoir et aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'y compris en psychanalyse, la sexualité masculine reste une énigme.
Bon, on attend votre essai sur le sujet.
Pas seulement, mais les écrivaines et écrivains pourront nous en dire davantage.
Et le couple, la vision du couple Julia Kristeva chez Colette, parce que c'est tout de même une grande amoureuse, c'est quelqu'un qui passera d'un bras à un autre. Donc il y a tout de même ce besoin du couple. Mais quel genre de couple ?
C'est extrêmement important et je suis contente que vous touchiez ce point. Elle a toujours souhaité la vie de couple, mais c'est un couple qui est d'une grande liberté. et d'une grande franchise.
Mais elle souffre quand même des infidélités, donc la liberté, ce n'est pas que du bon.
Absolument, mais elle a besoin de cet ancrage. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'époque et qu'on est plus abrité dans un exemple classique et qui reprend les repères sécuritaires de la famille parentale? Est-ce que c'est parce que c'est une ruse? On peut discuter sur tout cela, mais elle a d'une certaine manière utilisé le couple pour développer une singularité qui va contre le couple. Et dans beaucoup de ses livres, quand elle insiste sur la vie du couple, elle montre comment la femme peut s'émanciper à l'intérieur, y compris du couple. Par exemple, la forme de liberté consiste à dire au mari « je ne suis pas de ton avis ». Et vivre avec cela. Bon, je pense que ça va plus loin.
Dans quel livre, par exemple?
Je ne sais pas dans quel livre est cette phrase-là, mais je crois que c'est dans La femme cachée, ou dans une autre qui s'appelle La chatte, il y a une vision de la femme complexe que le mari envie. Donc il y a toujours cette étrangeté des partenaires qu'elle met en évidence. Et je pense que dans notre culture française, c'est extrêmement important de donner ces exemples, parce que nous avons créé avec Rousseau l'exemple du couple bourgeois comme abri de la morale. Il n'y a pas l'Église, c'est la belle Héloïse qui va créer la vie familiale et l'éducation des sexes, et ça reste toujours l'appui de la société, le couple bourgeois. Mais nous avons aussi Sartre et Beauvoir qui ont pu donner des visions de liberté. Colette, c'est autre chose. C'est par l'imaginaire qu'elle s'émancipe et elle tient tête à l'autre. Elle ne se soumet pas.
Elle a les joues et les mains noires de Hal, le cou blanc comme lait sous ses cheveux, le sourire contraint, le rire éclatant. Et si elle ferme étroitement sur une gorge absente blouson et chandail, elle trousse jupe et culotte pour descendre à l'eau, aussi haut qu'elle peut, avec une sérénité de petit garçon. Le camarade qui l'épiait, couché sur la dune à longs poils d'herbe, berçait sur ses bras croisés son menton fendu d'une fossette. Il compte 16 ans et demi puisque Vinca atteint ses 15 ans et demi. Toute leur enfance les a unis, l'adolescence les sépare. L'an passé déjà, ils échangeaient des répliques aigres, des horions sournois. Maintenant, le silence, à tout moment, tombe entre eux si lourdement qu'ils préfèrent une bouderie à l'effort de la conversation. Mais Philippe, subtil, né pour la chasse et la tromperie, habille de mystère son mutisme et s'arme de tout ce qui le gêne. Il ébauche des gestes désabusés, risque des...
À quoi bon? Tu ne peux pas comprendre.
Tandis que Vinca ne sait que se taire, souffrir de ce qu'elle tait, de ce qu'elle voudrait apprendre, et se raidir contre le précoce, l'impérieux instinct de tout donner, contre la crainte que Philippe, de jour en jour changé, d'heure en heure plus fort, ne rompe la frêle amarre qui le ramène, tous les ans, de juillet en octobre, au bois touffu incliné sur la mer, au rocher chevelu de fucus noir.
Un extrait donc du Blé en herbe dans la voix de Béatrice Agenin. C'est le début du roman Julia Kristeva où les deux adolescents Vinca et Philippe s'éloignent l'un de l'autre. Philippe va bientôt vivre une expérience amoureuse avec une femme plus âgée, bien plus âgée, avant de revenir vers Vinca. Et là encore, c'est un thème que Colette aborde très librement, celui de l'amour entre un adolescent et une femme déjà un peu plus âgée. Et puis c'est aussi peut-être ce que vous disiez, qu'est-ce que c'est que le couple non bourgeois, Philippe et une femme plus âgée, couple bourgeois, Philippe et Vinca, puisque c'est comme ça que se termine le roman, par la réunion finalement, ce qui devrait être des deux personnages du même âge, Julia Kristeva.
Ce qui est très, très étonnant avec la distance, c'est... À travers sa bisexualité psychique, avec son côté hermaphrodite mental, elle maintient le couple hétérosexuel. quel qu'il soit et avec toutes ses facettes.
C'est traditionnel alors ?
Non, est-ce que c'est la tradition ? Aujourd'hui, en effet, quand on dit couple hétérosexuel, ça fait ringard, bobo ou classique, mais la révolte est dans l'homosexualité. C'est évident, c'est admis et c'est une possibilité. Elle a fait autre chose. Comment dans la vie à deux sexes, dans l'hétérosexualité, il y a toute une palette de libertés que le couple bourgeois s'interdit ou censure tout en les vivant et qu'elle met à nu. Et c'est pour ça qu'elle fait scandale. Mais son originalité est de maintenir qu'il est possible qu'un homme et une femme vivent ensemble, mais que c'est infiniment riche et ça suppose différentes variétés. Et donc là, nous avons un exemple dans Le blé en herbe. Il va y en avoir un autre dans Chéri, où la femme est une figure maternelle, finalement, de Léa et Chéri.
Il est presque question d'inceste aussi dans Chéri.
Tout à fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce livre dépasse, il est écrit avant qu'elle fasse sa relation incestuelle, c'est le cas de le dire, avec Bertrand de Genevelle, qui est le fils de Goudquet, qui n'est pas son fils, mais qui pourrait...
De Goudquet.
Non, de Genevelle.
Mais justement, est-ce qu'au fond, elle n'a pas été plus heureuse avec son dernier mari, Goudquet, qui était peut-être moins flamboyant, mais aussi moins homme à femme? Est-ce que ça ne va pas un petit peu contre cette idée de la liberté dans le couple dont vous parlez?
Mais elle a, peut-être qu'elle peut s'assagir et donner l'essentiel de son génie à l'écriture quand elle a vécu déjà toutes ces expériences. Vous savez, si vous prenez sa trajectoire, elle est le tendron de Willy, après elle devient lesbienne, ensuite elle devient femme maîtresse de jeunes gens et donc elle passe par cet amour incestuel, mais avant cela elle devient maman aussi et on ne parle pas assez de cette vision qui est aussi une expérience. Elle a écrit un très beau livre.
Parce que quand on en parle, c'est pour dire qu'elle a été plutôt une mauvaise mère.
Et on dit qu'elle était mauvaise mère, on en parle parce qu'on parle de son comportement et c'est le cas. Elle était une mauvaise mère, sa fille était en pensionnat, elle ne s'est pas beaucoup occupée et le simple fait de l'appeler la petite Colette est déjà extrêmement lourd pour cette jeune femme. Il n'empêche que cette jeune femme est devenue journaliste homosexuelle et qu'elle était parmi les premiers qui ont découvert les camps de concentration. Elle a écrit sur sa mère après avoir été en guerre avec elle pour des histoires d'héritage mais aussi de rivalité avec Goudquet. Un très beau texte sur sa mère, sur les sulfures de Colette. Vous savez, ces boules où on met des fleurs et qui sont des objets décoratifs qu'on connaît beaucoup chez les antiquaires maintenant ou ailleurs, à Venise, on trouve ça. Donc, elle a écrit dans la chambre claire des textes extrêmement significatifs sur le langage des bébés, sur sa tendresse vis-à-vis de cet enfant. Il y a une sorte d'osmose là aussi avec l'autre d'étayage maternel qui est extrêmement significatif, qui est rare à cette époque dans la littérature féminine. Maintenant, on a des femmes, Marie Darrieussecq pour ne pas la nommer, et d'autres qui parlent beaucoup de la maternité. Mais Colette est encore une des rares à cet égard-là. Donc, il y a toute cette panoplie qu'elle a épuisée. On ne pouvait pas aller plus loin. C'est toujours possible, mais elle a donné un exemple. Et elle arrive à un âge où la rencontre avec Goudquet est extrêmement porteuse, parce que c'est un homme, en effet, tout à fait en service, mais très attentif et pas obséquieux, je pense. Et je pense qu'elle a été aussi très, très séduite par sa fragilité sociale la situation des Juifs pendant la guerre. On lui a beaucoup reproché d'avoir fréquenté l'ambassade américaine, allemande. Le pouvoir, c'était allemand à l'époque, à Paris, mais c'était pour essayer de le sauver de la déportation. Et on peut penser que sa position à elle pendant la guerre, qui est très contestable, au lieu d'appeler à la résistance, elle essayait de publier des papiers pour dire aux Français comment mieux se nourrir. Ouais. Elle considère après que
c'est très pratique chez Colette.
Voilà.
C'est certain.
Mais néanmoins, elle était très 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 tendre et porteuse aussi vis-à-vis de Goudquet.
« Il y aurait encore beaucoup à dire, voilà. Julia Kristeva sur Colette. Merci beaucoup. Je rappelle que le troisième volet de votre série, Le génie féminin consacré à Colette, après les deux premiers donc sur Hannah Arendt et Mélanie Klein, est édité en folio essai après avoir d'abord paru chez Fayard. Et demain, c'est de poésie qu'il sera question, poésie et ainsi de suite, à 15h sur France Culture.